Il a été un des premiers responsables religieux à prendre position dans le débat sur la fin de vie qui agite notre pays. Depuis septembre dernier, il s'agit du grand rabbin de France, Haïm Korshia. Face à la possible légalisation de l'aide active à mourir, il s'inquiète que la seule réponse qu'une société puisse donner face à la souffrance soit la mort. Pour ce nouveau cycle d'émissions, nous vous proposons de nous plonger dans cette douloureuse question de la fin de vie, sous un angle biblique, psychologique ou encore familial. Mais avant, nous vous proposons pour cette première émission de nous arrêter quelques instants sur l'actualité et les enjeux de ce débat.
Psy et Spi avec le père Jean-François Noël, dialogue RCF.
Bonjour Père Jean-François Noël.
Bonjour Sophie.
Alors je rappelle que vous êtes prêtre du diocèse d'Aix et Arles et également psychanalyste. Merci en tout cas d'être avec nous aujourd'hui pour entamer ce nouveau cycle d'émissions consacré à ce sujet bien d'actualité, la fin de vie. Alors pourquoi le choix de ce sujet? Qu'est-ce qui vous a donné envie de parler de cette question?
En fait, je travaille avec un groupe de psychanalystes sur Paris qui s'appelle d'ailleurs Hold Up sans H. Hold up, voilà.
Comme ça, d'accord.
Old, comme vieux.
Et, ah d'accord, ok.
Oui, c'est, bon, oui, c'est précise.
Ça. Excusez-moi, l'information sans H est montée au cerveau.
Voilà, sans H, c'est pas hold up, c'est hold up. Ce sont des anciens, parfois très anciens d'ailleurs, qui réfléchissent à ce qu'ils deviennent et quelles sont à la fois où les chances et les pathologies de la vieillesse. Voilà. C'est un groupe non confessionnel, mais dans lequel je suis intervenu quelquefois. J'ai quelques amis là qui ont, enfin, par exemple, je pense à mon propre superviseur qui est un grand psychanalyste et qui s'appelle Philippe Guton, à qui je demandais l'autre jour durant une intervention, mais en fond, tu as quel âge, quoi, en fait, depuis le temps que je le connais, et il me répond 90 ans.
Et ça vous a étonné?
Ah, ça m'a, il m'a dit, me regarde pas comme ça, je suis pas encore mort. Il a pas mal d'humour et je le connais depuis plus de 20 ans. Et en fait, ça a toujours été mon maître. Et je ne l'ai pas vu arriver. Je n'ai pas vu arriver qu'il ait aujourd'hui 90 ans et en pleine forme. Et physiquement, évidemment, son corps trahit son âge, mais son esprit est d'une vivacité, comme je rencontre souvent chez certains intellectuels, une sorte de jeunesse d'esprit. Voilà.
Donc vous menez un peu une réflexion sur cette question
donc,
dans
ce
la
groupe-là, ils ont décidé de lancer, et d'ailleurs j'en profite pour en faire la publicité, ils lancent une collection de livres et d'articles sur la fin de vie, mais pas forcément sur le fait de mourir ou pas mourir, sur la fin de vie, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe sur le plan clinique? Et il m'a téléphoné pour me demander, donc il n'est pas croyant, et le groupe n'est pas du tout confessionnel, mais ils m'ont demandé de réfléchir de mon point de vue à moi en tant que prêtre et psychanalyste sur la fin de vie. C'est comme ça que c'est comme ça que je vous ai proposé ce sujet.
Voilà, donc on va aussi en parler, nous, de votre point de vue de prêtre et de psychanalyste
sur la fin de vie.
Alors justement, quel regard vous portez sur le débat qui a lieu actuellement depuis le mois de septembre sur ces questions de la fin de vie, hein, le vote du 19 février dernier de la Convention citoyenne pour la fin de vie qui s'orienterait vers l'adoption de l'aide active à mourir? Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors évidemment, je connais les propositions à la fois pas simplement d'ailleurs des catholiques et des chrétiens, des musulmans et des juifs d'ailleurs, qui sont finalement sur la défense de la vie en tant que telle et sur la crainte d'accélérer et de ne pas respecter. Donc, en fait, j'ai écouté leurs différents arguments des deux côtés et les deux côtés emploient le même mot, mais il n'est pas centré sur le même thème. Je m'explique. En fait, c'est le même mot de chaque côté, c'est la dignité de la personne. Alors, pour ceux qui sont favorables à l'accompagnement, plutôt du côté de l'euthanasie, parlent du respect de la personne pour ne pas qu'elle souffre. Et du côté des religieux, c'est du côté de la dignité de la personne, non pas pour ne pas qu'elle souffre, mais pour qu'elle soit respectée dans son vrai désir. Mais au fond, c'est ça qui fait un peu la difficulté du débat, c'est que chacun emploie le même terme de dignité de la personne, qui est un terme, je veux dire, très occidental. Hein. Parce que j'arrive d'Afrique, là, j'étais il y a 2 jours au Sénégal, et puis j'ai passé un moment au Bénin. La précarité de la vie et la fragilité de la vie font que la dignité passe d'abord par survivre. et que nous, on se permet de parler de dignité parce que on a de quoi, on n'est pas dans une précarité. Bon, enfin ça c'est fin de parenthèse. Il n'empêche que la dignité n'est pas, ne se centre pas sur le même thème. Ceux qui veulent défendre un accompagnement de suicide ou d'accompagnement en tout cas de fin de vie vont tout centrer sur la souffrance, tandis que les autres vont pas centrer sur la souffrance, vont centrer sur le sens de la vie et la destinée de la vie.
Sur ce débat qui a lieu actuellement, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a quand même des questions qu'on peut avoir sur le temps dans lequel a lieu ce débat? On se demande un peu comment on en est arrivé là. Pendant le Covid, il fallait sauver beaucoup de personnes fragiles, vulnérables, et maintenant on va vers cette idée d'une aide active à mourir. On a l'impression qu'il y a quand même beaucoup de contradictions dans notre société qui est un petit peu perdue.
Bah, je pense qu'il y a, on l'a déjà dit sur cette antenne ensemble, mais je le redis, au fond, si vous voulez, pour faire vite, en gros, à la fin 19e, début 20e, on a investi énormément sur la science, sur la raison scientifique. Enfin, moi, je pense toujours à cet épisode du Titanic, puisque le film, on ne sait pas pourquoi on en parle en ce moment, ça doit être un retour.
C'est l'anniversaire, oui, des 25 ans de Titanic.
Du film. Ah, du film, pas du naufrage.
Non, du film.
Que j'ai vu d'ailleurs et que j'ai beaucoup apprécié. Et surtout, j'ai apprécié une des scènes très intéressantes où Cate Blanchett, je ne sais plus comment elle s'appelle dans le film, dit à celui qui vante la solidité de ce navire et son étanchéité par rapport à toutes les épreuves possibles, elle dit « Vous avez déjà lu Freud ?» Or, pulsion de mort chez Freud. Et en fait, c'est contemporain. Et il dit non. Et elle dit « Ah oui, elle dit oui. » Je comprends que vous n'ayez pas lu. Parce qu'en fait, Freud va découvrir lui-même, tout en ayant extrêmement confiance dans la raison scientifique, qu'en fait, elle est limitée et qu'on va aussi se heurter à un mur qui est la mort, qui est la fragilité et la précarité. Et le Titanic, c'est l'exemple, enfin, c'est à voir un
événement. L'insubmersible.
Et voilà, c'est que tout le monde pensait qu'il n'y a aucun problème. Et d'ailleurs, ils envoient des télégrammes en plein milieu de la nuit, alors que l'iceberg a été déjà aperçu par les guetteurs, enfin, les veilleurs, tout ça. Bref, vous connaissez le film. Mais c'est intéressant parce que c'est à la fois un événement réel et il y a vraiment une extrême métaphore de l'effondrement de la confiance que l'Occident va mettre dans la science. Et après, il y aura eu d'autres échecs. Et je pense que, enfin, moi, je suis de cette génération-là. Je pense que c'est l'échec du SIDA. En fait, la science n'a pas guéri le SIDA, puisque même maintenant, d'ailleurs, on ne guérit pas du SIDA. Et ensuite, après, ça a été le problème du cancer. Et puis, le Covid est venu arriver là-dessus, de nouveau, en disant, mais non, la science et la médecine ne sont pas toutes puissantes. Et donc, en qui les contemporains vont-ils mettre leur confiance d'une toute puissance? Elle est où? Donc, elle n'est nulle part.
Alors, pour revenir sur cette question
donc
de la
mort
fin...
La mort entoure de tout le monde. Voilà, la mort, pour terminer ma phrase, la mort limite et entoure chacun. Voilà.
Je reviens donc sur la fin de vie. Alors, ce vote qui semble s'orienter vers une aide active à mourir, est-ce que c'est pas un peu effrayant de se dire que finalement les Français, ils ont plus peur de l'idée de la liberté de se donner la mort? On avait l'impression que ça, c'était quelque chose qui était quand même pas envisageable il y a plusieurs années en arrière, non?
Oui, et de fait, certainement que les règles religieuses et ou morales devaient encore fonctionner et qu'elles ne fonctionnent plus maintenant. De partir avec dignité sans que la volonté intervienne devait encore jouer. Je pense que l'effondrement du sens religieux doit participer à cette opinion.
On se sent libre finalement. On peut choisir. Qu'est-ce que vous en pensez?
On essaye de revendiquer une liberté qui est limitée quand même. Moi, je pense que le problème... En fait, il y a deux catégories, donc. Les deux catégories, c'était, premièrement, que la dignité ne revêtait pas, ne s'appuyait pas sur le même thème. Premièrement, c'était soit, effectivement, la dignité de la personne et de la vie, ou dignité, bon, par rapport à la souffrance, voilà. Ne pas souffrir, voilà. En fait, je distingue d'autres catégories. Il y a ceux qui ont accompagné des personnes très malades et très souffrantes. Il y a ceux qui ne l'ont pas accompagné et qui ont peur d'y être confrontés, voilà. En fait, ça change tout. Parce que dans la catégorie de ceux qui ont fait l'expérience de ceux qui ont accompagné des gens souffrants et voire jeunes, parce que souvent la question se pose aussi encore plus cruellement pour des sujets jeunes, je me rappelle l'entêtement des parents de ce jeune comateux
Vincent Imbert.
Ils ont été toujours très mal vus par les médias. Hein. Et moi-même d'ailleurs... je me disais, qui le lâche, quoi, qui le laisse partir, quoi. Et puis, les raisons dans ma vie font que j'accompagne actuellement des gens âgés ou des gens de ma famille, voilà, malades ou souffrants. Et on réfléchit différemment, en fait.
Votre regard a changé sur cette question ?
Avec les parents de Laurent Humbert, c'est ça ?
Vincent Humbert.
On était plus prêts d'être d'accord de le...
D'arrêter. L'acharnement thérapeutique.
Et d'ailleurs, il est mort naturellement, hein, il me semble. Il a fini par mourir naturellement. Mais quand on a fait l'expérience proche soi-même, on a une autre vue sur les choses qui n'est pas du tout la même. Ceux qui ne l'ont pas fait, ils ont peur. Ou de souffrir, ou de voir souffrir. Et pourquoi cette peur donne à penser qu'on peut prendre une opinion, c'est qu'on se sent impuissant, donc coupable. Toujours le même problème. C'est que, en fait, je n'ai pas le droit de faire souffrir ma mère, ma grand-mère, ma sœur, et que je dois tout faire pour qu'elle ne souffre pas. Et ça, c'est un point de vue très contemporain.
Alors, on aura l'occasion de revenir sur le côté familial, les proches, dans une autre émission. Mais pour terminer sur celle-ci, je voulais vous demander, qu'est-ce que vous pensez de la position du grand rabbin de France, Harim Korshia, qui s'inquiète de cette possible législation de l'aide active à mourir. Il y voit comme une rupture tragique. Également, les catholiques, dans le débat, mettent en garde contre cette ouverture à l'euthanasie. Comment expliquer, finalement, que les voix religieuses aient si peu de crédit, soient si peu entendues dans notre société?
Ça, vous savez, la raison principale, c'est qu'effectivement, on en a peut-être pas parlé ici, parce que je confonds parfois un peu les lieux où je m'exprime, mais en fait, il y a eu une sorte de privatisation du religieux qui a fait qu'on nous a muselés. Et que ce soit d'ailleurs les trois monothéismes, et que, en fait, en nous renvoyant, on croyait respecter la loi de laïcité. En fait, on a aplati cette loi de laïcité et on a renvoyé les discours religieux à un discours privé qu'on ne doit, ce qui est complètement contre la laïcité, puisque la laïcité, c'est pas du tout le terme de laïcité, c'est le respect des cultes et le respect des croyances, etc., et l'autorisation à les célébrer selon les rites de chacun. C'est ça la laïcité telle qu'elle a été définie dans les lois françaises, en tout cas, parce que c'est pas le cas dans d'autres pays. Et je me rappelle très bien, là je vais prendre une position, disons, une certaine gauche un peu radicale, on va commencer par Mitterrand en tout cas, parce que c'était vraiment le cas, cachait un anticléricalisme réel, qui d'ailleurs, c'est intéressant parce que je fais une parenthèse. Quel est le dernier livre que lisait Monsieur François Mitterrand avant de mourir? Je le sais, puisque son confident, qui est un grand athée aussi et technicien, dont je vais retrouver le nom, parce qu'il me l'a raconté lui-même, sur le chevet de son lit de mort, il lisait Frère François de Julien Green. Et les questions religieuses l'ont habité tout au long de son agonie. Donc l'anticléricalisme qui a été prôné par cette gauche mitterrandienne et suite a une colère contre les religions. Et elle a poussé, elle a infléchi la laïcité à devenir une affaire purement privée. Ce qui fait qu'elle nous a complètement muselés. Ce qui fait que non seulement on n'a plus le droit de s'exprimer en tant que religieux, on peut le faire que dans des sphères privées ou de collectifs privés, mais on n'a pas le droit de s'exprimer publiquement, et qu'on est décrédibilisé. Et plus ça va, plus on le sera, puisque les gens qui nous interrogent sont absolument non formés sur le plan de la culture religieuse.
Merci beaucoup, Père Jean-François Noël. Je rappelle que vous êtes prêtre du diocèse d'Aix et Arles et psychanalyste. Vous pouvez retrouver cette émission en réécoute sur rcf.fr ainsi que sur toutes les plateformes de podcast. La semaine prochaine, nous vous proposons de voir quels sont les épisodes bibliques qui traitent de cette question de la fin de vie. Nous reviendrons plus particulièrement sur l'épisode du Bon Larron. Ne manquez pas notre rendez-vous de mercredi à 11h.
Avec le Père Jean-François Noël, Dialogue RCF.